qui vient dîner. Michel Durand-Valère. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Dans la vie, nous sommes tous contraints, un jour ou l'autre, de dire ce que nous sommes. Ingénieur, médecin, vendeuse, secrétaire, coiffeur. Bon, enfin, jusque-là, c'est assez facile parce que c'est sanctionné soit par un diplôme, soit par une fonction exercée dans un lieu concret, au vu et au su de tous. Mais quand il faut annoncer, sur un ton que l'on ne sait d'ailleurs pas choisir entre fierté, humilité, gêne, arrogance, crainte, que l'on est musicien, peintre ou écrivain, en général, les choses se gâtent. Alors, dans le meilleur des cas, la réponse adverse est amusante. « Ah ouais, super ! Ah ouais, écrivain ! Oui, mais comme métier, tu fais quoi ?» La réplique, forcément, est un peu embarrassée. Bah, c'est mon métier, enfin, disons que j'essaie d'en vivre. C'est pas facile tous les jours. Dans le pire des cas, l'embarras n'est pas dicté par la réaction d'autrui, mais par la sienne propre. C'est-à-dire, je suis musicien, écrivain, mais qu'est-ce qu'il prouve ? Le fait que je joue sur scène, le fait que, pas encore publié, je passe des heures assis à ma table devant une pile de feuilles encore blanches ou à un écran d'ordinateur qui attend une vague excitation électrique, qui m'autorise, sinon moi-même finalement, à dire à l'autre que je suis un artiste, un créateur. Ce passage, tous les artistes, je le suppose, l'ont connu, ce moment d'affirmation d'un mode d'être au monde, à la fois parfaitement illusoire et tellement essentiel, chargé de surcroît du génie et de l'œuvre de tous ceux qui ont précédé sur des siècles et des siècles. Moment donc difficile. Et je me demande dans quelle mesure l'homme qui est en face de moi, tout comme le héros de son roman d'ailleurs, car l'homme qui est en face de moi est écrivain, enfin du moins à mes yeux, puisque j'ai lu un de ses romans. Donc si ces deux personnes, ou cette personne et ce personnage, ne se débattent pas dans le vide terrorisant de cette question totalement existentielle. Bonsoir François Hussy.
Bonsoir.
Alors, je dois vous présenter comment je dis quoi ? Vous êtes écrivain ?
Oui, je suis écrivain.
Ça va, ça marche ?
Oui,
vous arrivez à le dire maintenant ?
Oui, maintenant j'arrive à le dire.
Vous avez un texte absolument magnifique où vous décrivez donc cette interrogation. C'est-à-dire, suis-je écrivain ? Avec le point d'interrogation qui parfois est un sein de femme, à la rondeur et la douceur d'une courbe féminine ou un crochet de boucher auquel vous balancez ou vous pendez lamentablement. Aujourd'hui, non.
Non, aujourd'hui, disons que... Oui, maintenant, je peux me dire écrivain. Et puis, rétrospectivement, je regrette un peu de ne pas avoir osé m'affirmer plus.
D'avoir tant tardé.
Voilà, d'avoir tant tardé. Dans le sens que... En fait, il m'a fallu du temps pour voir qu'on peut dire « je suis écrivain » en étant parfaitement humble. Ça n'a rien de... Ça ne veut pas dire qu'on se considère comme un grand écrivain ou un génie ou je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Simplement, ça veut dire qu'on écrit. Et ça, c'est vrai que j'écris, donc voilà, je suis écrivain.
On est très dépendant de l'image, finalement, ou du fantasme que l'on se fait du créateur, de l'artiste.
Absolument. Et des fois, dans certains contextes, si on dit « je suis écrivain », il y a des gens qui sentent ça comme une agression. Mm-hmm. Justement parce qu'ils se disent « ah, mais quel prétentieux !»
Mais quelle arrogance !
Quelle arrogance, voilà, ouais, tout à fait.
D'oser se prétendre écrivain. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il a écrit ? Cela dit, tout est légitime dans ce que vous venez de dire, puisque vous faites paraître votre quatrième roman. Je ne sais pas si le nombre agit sur la fonction, mais tout de même.
Oui, tout de même. Oui. Bon, là, c'est mon quatrième roman, mais c'est le deuxième à paraître.
C'est le deuxième à paraître.
Les deux premiers sont encore inédits.
Oh, ça me serait tardé. Paru celui-ci aux éditions de l'Âge d'Homme, Cris de lumière, c'en est le titre. Avant que nous en parlions, j'aimerais que vous nous présentiez votre invité.
Alors, je suis venu avec Florence Lédrac, qui est l'une de mes meilleures amies. Et en fait, je la considère comme une sœur. Et en fait, elle m'a toujours soutenu dans toutes mes entreprises, y compris dans l'écriture. Et puis en ce moment, elle fait tout ce qu'elle peut pour faire connaître mon livre.
Mmh. Magnifique. Et, voilà. Et je peux vous dire qu'elle fait vraiment... Bonsoir, Florence Fedra.
Bonsoir.
Vraie amie, hein. Vraie amie, parce que c'est elle qui a attiré notre attention sur la parution de votre roman. J'ose lire quelques extraits de ce que vous nous écriviez sur François Hussie.
Avec plaisir.
Ça vous gêne pas?
Mais non.
Alors, vous écrivez diverses... Et puis, vous écrivez, donc, je suis portée à faire connaître son travail, car j'aime et respecte énormément sa sensibilité, sa pensée, le regard qu'il pose sur les êtres et les choses. En outre, ses connaissances, tous me fascine, d'autant qu'elle reste discrète et surtout toujours habitée d'une profonde humanité. Et puis, il y a son humour désarmant. J'espère qu'on en aura quelques exemples.
Ouais, là, ce soir, je serais peut-être un peu trop tendu pour faire de l'humour, mais peut-être au fil de l'émission, je vais me relaxer.
Vous êtes tendu ?
Un petit peu quand même. Okay. J'ai pas l'habitude de parler à la radio, surtout en direct.
Bon, on va faire en sorte que ça se passe bien. Vous êtes rencontrés comment l'un et l'autre ? Florence Lédrac, je fais confiance aux filles, oui. pour la qualité du souvenir.
Nous étions voisins d'immeuble. Nous sommes devenus amis et nous avons même finalement vécu ensemble. Nous étions un couple pendant 8 ans et demi. Et puis, à un moment donné, on s'est séparés.
Et vous êtes restés amis ?
On est restés... grands amis. Ça n'a pas été facile tout de suite. Mm-hmm. Je veux dire, il y a eu une année comme ça où c'était... On se voyait quand même beaucoup, mais les émotions, enfin, le cœur était un peu déchiré, mm-hmm. de l'un, de l'autre, comme ci, comme ça. Mais on a toujours gardé le lien. Et puis par la suite, on a gardé cette relation. Et c'est vraiment, pour moi, c'est quelqu'un pour qui je ferais un peu n'importe quoi. Je veux dire...
Tout, vous êtes prête
voilà,
à tout.
Voilà, je suis prête à tout. Voilà, voilà. C'est pour moi, il est quelqu'un de... indubitable.
S'il fallait aller enterrer en pleine nuit le cadavre
voilà.
d'un individu qu'il vient d'oxyre,
par exemple,
l'enterrer dans le jardin, vous le feriez.
C'est bon à savoir. Alors.
Sans vous poser une seule question. Il faut savoir qu'on a ce genre d'amis, vous savez.
Oui, tout à fait.
C'était même essentiel.
Oui.
Qui puis-je appeler pour m'aider à creuser un trou?
Oui,
pour enfouir le cadavre.
D'ailleurs, juste une petite anecdote, c'est que quand on s'est connus... Florence avait 25 ans et moi 20. Et puis à l'époque, ma grand-mère maternelle qui n'était pas toujours très gentille, un jour elle m'a dit « Mais François, mais qu'est-ce que tu fais avec une vieille de 25 ans ?» Mm-hmm. Alors de temps en temps, je dis à Florence « Tu te souviens quand tu étais une vieille de 25 ans ?»
vous nous feriez, Florence Lédrac, tel que vous le connaissez, et l'aimer, le portrait de François Hussie, au-delà de ce que je viens de lire d'ailleurs.
Oui, oui. Il y a des choses qui se retrouveront puisque mais je vous les avais écrites, mais. Alors évidemment, je vais être élogieuse, mais je trouve que. Il est comme ça. Donc fondamentalement, c'est quelqu'un de bien. C'est une personne très humaine. Quelqu'un de profond. On peut lui faire entièrement confiance sur tous les plans. Il est intègre. Il a l'intelligence du cœur. Il sait écouter, ce qui n'est pas toujours très courant. Il est compréhensif, il est tolérant. Quelque chose qui me frappe, il est sensible. Ce n'est pas ça qui me frappe, mais c'est aussi pour ça que je l'aime. Mais il est sensible, mais ce qui me frappe, c'est que je trouve remarquable, c'est que ça ne l'empêche pas de toujours savoir garder sa capacité de réflexion et d'analyse, mm-hmm. malgré sa sensibilité.
Il ne se laisse pas emporter par ses émotions.
En tout cas, pas forcément, mais... je ne veux pas dire que c'est jamais, mais en tout cas, en gros, même si les choses sont très chargées, il garde sa capacité de jugement,
de lucidité,
enfin, voilà, de lucidité et tout. Une des qualités aussi qui me touche particulièrement, c'est l'attention qu'il porte, l'attention intelligente et tendre qu'il porte sur les autres, au monde, à la nature, à l'art, enfin à tout. Et ça se voit en particulier avec les enfants, et encore plus spécialement avec les enfants handicapés avec qui il travaille. Mmh. Quand il en parle, on le voit très touché et plein d'interrogations qui sont souvent sans réponse à leur sujet. Et malgré la condition de ces enfants qui est difficile, douloureuse parfois, et puis le fait que pour ceux, les adultes qui s'en occupent, c'est difficile et usant souvent... Toujours, quand il en parle, il est animé, et donc je sais que c'est ce qu'il vit aussi, il est animé d'une telle patience, d'un respect, d'un intérêt. Et je peux de nouveau dire, en fait, d'une telle tendresse. C'est un mot qui revient, dans le fond. Et c'est vraiment beau, cette chose-là. Aussi, il a une grande conscience des malheurs, des douleurs, des aberrations du monde. Et puis, il a sorti ça, c'était un peu mentionné, je crois, dans le texte que je vous avais écrit. Il a sorti ça d'une large connaissance du monde et de la nature humaine. Donc, il est quelqu'un, François, qui connaît et qui fréquente le monde intérieur et le monde extérieur. Il ne se fait pas d'illusions sur toutes les mochetés, si je peux dire. Et pourtant, il continue à garder une disponibilité pleine de tendresse. Et puis, alors, il y a ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, son humour. Oh, vous l'avez peut-être mentionné, je ne sais pas. Oui, vous l'avez mentionné.
Bah, très rapidement.
Oui, ouais, tout mais... à fait. Mais ça, c'est génial. Mais c'est un humour qui est très présent.
Il est dans le livre, hein, dans le roman. Il est les réflexions voilà. Du héros. Alors, à l'évidence, une espèce d'humour un peu cynique, mais sans méchanceté, mais avec une forme de cynisme sur soi-même, la plupart
et
du
il a,
temps.
Il a sans arrêt des idées. Donc, cet humour est effectivement très présent, mais discret et souvent poétique. Et moi, j'ai appelé en son temps, quand on vivait ensemble, l'humour domestique. Parce que à tous les tournants, enfin dans le sens que c'était quelque chose qui était très présent à chaque moment, il avait une vision drôlatique, les visions drôlatiques de son imagination se glissaient tout le temps, enfin se glissent, elles continuent, mine de rien dans la conversation, au cours d'une situation qu'on est en train de vivre, à tous les tournants, on se fait délicieusement surprendre par ce tournant. Donc ça, il vaudrait la peine d'être fréquenté juste pour ça, ne serait-ce que pour ça.
On se demande pourquoi on le quitte d'ailleurs, franchement. Sans vouloir rentrer dans vos vies privées. Ça ne me regarde pas, mais enfin tout de même, comment quitter un homme pareil? Quelle aberration. Je vous remercie, je suis ravie que vous soyez là et je suis très heureuse que l'on puisse parler de ce quatrième roman, deuxième édité.
Voilà, oui.
Et mais où sont les deux autres alors? Dans des tiroirs,
les
dans
deux
des placards?
Les premiers sont dans un tiroir.
Ils sont revenus de certaines maisons d'édition.
Oui, ils ont beaucoup voyagé, ils sont beaucoup
de maison en
ils
maison,
sont beaucoup partis, ils sont beaucoup revenus.
Mais ils sont toujours là.
Ils sont toujours là. Mais bon, j'ai bon espoir qu'un jour ils soient publiés. Puisque...
Vous les retouchez, vous les relisez,
oui.
Vous vous dites qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi.
Oui, oui, absolument.
Ouais.
Et plus il y a de refus, plus
vous travaillez.
Non, peut-être pas, mais plus. C'est la porte ouverte à toutes sortes de questions, c'est évident. Mais bon, de toute façon, j'ai tendance à reprendre mes romans. Et là, Cri de lumière, la version publiée, en fait, c'est la troisième version de mon roman.
Oh, quel courage.
Oui, en même temps, bon, c'est du courage, mais en même temps, c'est un plaisir. Mm-hmm. C'est un immense plaisir, sinon j'aurais arrêté d'écrire depuis longtemps.
Et c'est plus, si j'ose intervenir, c'est plus qu'un plaisir. C'est pas seulement un plaisir, c'est une des raisons de vivre, c'est une nécessité.
Oui, tout à fait.
Et depuis tout petit, c'est ce qu'il souhaite faire.
Ouais, ouais. Oui. Mais bon, je dirais que c'est un tel plaisir que c'est devenu une nécessité. J'ai besoin de retrouver régulièrement ce plaisir d'écrire.
Cet état-là.
Voilà, cet état-là, exactement.
Cette sensation-là.
Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Je vous propose d'écouter Babette avec la voix d'Edouard Baird, le comédien. Espèce d'hurluberlu assez charmant, Édouard Baird, avec Babette, Le Miroir, et puis on se retrouve juste après.
Miroir, mon miroir, t'as pas besoin de me dire qu'aujourd'hui tout va bien. Ne vois-tu pas que tout bien? Enfant de teint, c'est parti.
Qu'est-ce qu'elle s'imagine, qu'est-ce qu'elle croit? Elle qui passe tant de temps devant moi. Ne pars pas sans mascara, mets ton phare à paupières. Sinon, sans ça, qui te reconnaîtra?
On a plein de dames crochues.
De moi, viens voir si tu l'oses ce que j'ai là. Ce petit bout de scotch usé de ce portrait arraché.
Je les décolle maintenant.
Allez, va-t'en.
Miroir, oh mon miroir, tu sais bien que je ne te cache rien, mais il m'attend. Ce soir, je ne rentre pas, à demain. Mon joli prince soupire en bas.
On a plein de dames crochues, partout, dessous, dessus. Avec lui, tu cours. de géant, c'est le bon, c'est évident. On a plein d'accrochés partout, dessous. Avec lui, tu cours à pas de géant, c'est le bon, c'est évident. Et c'est navrant. Alors c'est à cette heure-ci que tu rentres.
Viens donc par là, viens, je te présente. Voici miroir, miroir, voici Édouard.
Bonjour, mais il a l'air bien, il me rappelle vaguement quelqu'un. Ah, j'ai au bout de la langue. Mais si, il est avec le... Ah, le type.
Voilà, ma bête et Édouard Baird, le miroir. Une des choses qui m'a tout à fait interpellée dans votre livre, c'est pas le livre lui-même, c'est le tout dernier paragraphe, un très beau texte qui n'a rien à voir avec le roman lui-même.
Une postface.
Une postface sur l'art de l'écrivain, sur votre manière à vous, sur sa place, ses doutes, ses rêves, ses angoisses, ses moteurs intimes. Et en même temps, curieusement, placé ainsi, ce texte sonne un peu, à mes yeux, comme une humble justification à ce que les lecteurs viennent théoriquement de lire. Dans quel but vous avez intégré ce texte à ce roman ?
En fait, c'est un texte qui m'a été demandé par mon éditeur, Vladimir Dmitrievitch. Et puis, dans son idée, c'était plutôt un texte peut-être à transmettre aux journalistes ou un texte dans lequel on pourrait puiser quelques phrases à mettre en exergue.
C'est presque un blog. Aujourd'hui, on est dans le blog. C'est un format de blog. C'est quoi ? Il y a 5-6 pages, je ne sais pas exactement. Hein.
Alors, j'ai eu beaucoup de peine à écrire ce texte parce que j'ai l'habitude d'écrire de la fiction. Et puis là, c'est un texte justement sur mon travail d'écrivain, donc j'ai eu beaucoup de peine. Mais plusieurs personnes l'ont trouvé bien et... quelques personnes, dont Florence, m'ont dit que ce serait bien qu'il soit accessible aux lecteurs du roman.
C'est un très beau texte, voilà. À l'évidence, Florence Hédrac.
Et moi, je ne l'ai pas du tout senti dans ma proposition comme une justification, mais plutôt, j'ai trouvé tellement émouvant de lire ça que j'ai envie qu'il soit partagé, qu'il soit connu d'autres. Mm-hmm. Voilà, c'est pour cette raison.
Alors, j'aimerais bien qu'avec vous, dans un premier temps, nous parlions de cette question de l'écriture, dont on sent bien chez vous qu'elle revêt un caractère... nécessaire, vital, peut-être même. Et avant d'en parler, j'aimerais lire un petit extrait, cette fois-ci du roman, non pas de ce texte sur le métier d'écrivain, donc des mots, des pensées que vous mettez dans la tête, dans la bouche de votre héros, Xavier, écrivain lui-même, comme par hasard. Et voici ce qu'il dit. Et peu importe, on n'a pas besoin de le situer, je crois. « Je ne sais pas comment se débrouillent les autres, murmura l'écrivain, mais moi, je dois sans cesse disputer ma vie à l'attraction d'un trou noir, d'une étoile, d'un soleil effondré sur lui-même. Tout à l'heure, je retourne à la maison de l'évêque. Il me semble qu'en ce moment, c'est là-bas que je dois me battre. » Réconforté de pouvoir situer géographiquement son mal de vivre, de lui avoir trouvé une capitale temporaire, exalté, il s'était fait une armure et une épée de la lumière de l'aube, Xavier se leva d'un tel bond qu'il faillit heurter une passante. Oui, en plus, c'est un texte important dans l'histoire. La jeune femme lui jeta une insulte et il n'eut que le temps de cette insulte pour entrevoir son visage qui lui parut d'une beauté surnaturelle. Meurtri à la fois par l'injure et la splendeur inaccessible, il regarda s'éloigner l'inconnu et la petite fille marchant à ses côtés. « Allons !» se reprit-il, interrompant son dépiotage intime. « Tu n'as pas raté ta vie, tu es peut-être en train de la rater. Ça te laisse une chance de redresser la barre. Quant à ton âge, eh bien, tu es plus vieux qu'hier, mais plus jeune que demain. » Tant bien que mal, l'écrivain et colleur d'affiche retrouva quelques pièces de son armure de soleil levant et c'est l'âme cliquetante qu'il se remit en marche. Un beau texte, hein ?
Ouais.
Un texte
que je trouve absolument très bien magnifique. Lu, très bien lu.
Parce qu'il est bien écrit. C'est à l'évidence, enfin, je ne vous connais pas, mais c'est totalement vous qui parlez là, François Hussy. Bien sûr que c'est Xavier, cet écrivain, dans ce contexte, dans son histoire, dans son statut particulier d'écrivain, pas encore publié, qui est dans un doute permanent de son existence, de son talent. Mais on ne peut pas mettre dans la bouche d'un personnage ces mots-là, parler du trou noir, sans l'avoir soi-même frôlé ou fréquenté, ce trou noir.
Oui, absolument. Puis là, disons, ce que je mets dans la bouche de Xavier, ben, ça reflète bien, disons, ce que j'ai pu vivre à certaines époques de ma vie. Et aussi ce doute, justement, parce que Ben justement, je ne sais pas comment se débrouillent les autres, mais moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour...
Vous avez longtemps galéré.
Galéré pour trouver un éditeur. Et pendant... Ben voilà, c'était... Pour moi, c'était difficile, c'était frustrant. Et puis, c'était la porte ouverte à tous les doutes, même si, malgré tout, ben, je pouvais vivre tous les doutes, mais finalement, je me mettais quand même à ma table et puis je me mettais à écrire. Et puis, j'avais toujours un plaisir immense à écrire. Donc, voilà, quoi, c'était un peu ce... à la fois le doute, mais un doute qui n'était pas, heureusement, pas paralysant.
Xavier ne comprend d'ailleurs pas qu'on ne veuille pas de son roman. Il est incapable de dire pourquoi on n'en veut pas. Il ne le comprend pas.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il le relie. Parce que bon, dans...
Il le relie sans cesse. Il l'a toujours sur lui.
Ouais,
toujours.
Oui, absolument. Ouais. Il est dans, disons qu'il est dans une période de doute aigu. Et puis, il est tout le temps en train de relire son roman pour essayer de comprendre pourquoi personne n'en veut. Mm-hmm. Mais bon, des fois, ce qui est un peu retors par rapport aux éditeurs, c'est que on leur envoie un écrivain leur envoie un roman, il le refuse, mais en fait souvent ils l'ont même pas lu. Donc l'écrivain se dit mais bon alors pourquoi ils l'ont refusé, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui cloche, etc. Mais en fait ils l'ont pas lu.
Ils l'ont pas lu.
Ils l'ont pas lu. Donc voilà, on peut tourner ça dans sa tête autant de fois qu'on veut.
Dans un monde idéal, on souhaiterait qu'un éditeur, d'une part l'ait lu évidemment, et puis vous renvoie une petite lettre circonstanciée, disant pour quelles raisons il ne le publiera pas, quelles en sont les forces et les faiblesses.
Oui. Au moins, moi j'aurais, rétrospectivement, je me dis, ben, est-ce que les éditeurs ne devraient pas dire, ben voilà, on l'a pas lu, on peut pas le publier, notre calendrier.
On n'a pas que ça à faire.
On n'a pas que ça à faire. Mais qu'est-ce que vous croyez?
Enfin, quelle arrogance, vous envoyez des textes. Ouais.
Donc voilà, moi j'aurais préféré à certains moments que les éditeurs disent ben non, on l'a pas lu, comme ça moi j'aurais pas gambergé. Mm-hmm. Mais bon, de toute façon, dans le domaine artistique, c'est vrai, c'est quelque chose de complètement immatériel et puis. Il n'y a pas de critères, on peut pas passer un diplôme d'écrivain ou de peintre ou. Mmh. Et puis, évidemment, je suis toujours avide de savoir comment les autres s'y prennent. Et quand je lis que, par exemple, Bizet est mort en étant persuadé que Carmen était un échec retentissant. Ouais. Et peu de temps après sa mort, Carmen a pris son envol, si j'ose dire. Et puis, c'est devenu un.
Vous citez Musil aussi.
Voilà, évidemment. Exactement. Mmh. C'est ça. Souvent, ben ouais, on attend que les gens soient morts pour leur reconnaître des qualités, quoi. Mmh.
J'imagine, Florence Fédrac, que vous faites partie d'un cercle dont je ne connais pas la dimension, des premiers lecteurs ou des premières lectrices.
Oui, c'est
à dire que vous recevez les pages, peut-être chapitre par chapitre, peut-être en entier, je n'en sais rien.
Il y a différents modes, oui. Mais je peux même remonter plus loin dans la préhistoire, dans le sens que j'ai justement assisté au début de notre relation, à ses débuts d'écrivain. Et à l'époque, il écrivait à la main, avec un crayon gris, sur des feuilles de brouillon. Et puis les piles s'empilaient, enfin.
Oui. La pile grandissait.
Grandissait. Enfin. Et puis, enfin, j'ai assisté à tout ça, dont au moment où il voulait tout balancer, il y avait une énorme pile dans l'armoire, et il voulait tout recommencer, tout balancer. Un certain roman, et puis moi j'avais quand même pris la précaution de...
Photocopier ?
Non, de garder tout.
En douce.
De garder tout quand même.
Ouais, ouais, ouais.
On sait jamais.
Et puis heureusement, parce qu'après la deuxième version de son travail, il a renoncé, il s'est dit que il s'est mis à retravailler la première version que j'avais gardée. Mm-hmm. Voilà. Donc oui, je...
Ces premiers lecteurs sont très importants pour l'écrivain. Alors, ce sont des personnes qu'on aime, des personnes de confiance.
Oui, tout à fait. Non, ces personnes sont très importantes. Oui. Oui.
Il faut bien les choisir. Oui, il faut les choisir franches. Il faut les choisir capables de dire, écoute, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas du tout, voilà. Ou qui ne m'a pas plu. Ou...
Il faut les choisir franches, mais mm-hmm. aussi bienveillantes. Il faut être sûr que ce soit des personnes. Qui n'ont pas quelque part une petite
vengeance à
assouvir, oui. Ou qui voudraient écrire mais qui n'y arrivent pas, donc ils n'aiment pas trop que les autres y parviennent, etc. Il faut être sûr de la bienveillance. Mm-hmm. Mais c'est vrai que bienveillance et franchise, alors ça, c'est l'idéal.
Mm-hmm. Ouais. Vous vous souvenez de ce moment, de la première fois où vous avez tenu un livre dans vos mains sur lequel était inscrit votre nom et le titre que vous aviez choisi?
Oui, c'était pour mon précédent roman. C'est vrai que c'est un moment extrêmement émouvant. Et après toutes ces années de travail, de recherche, etc., de quête d'un éditeur, tout à coup de voir l'objet
concrétisé.
Voilà. Ouais. Et puis, quand mon précédent roman a été publié, ben, j'ai eu un regret, c'est que mon père était décédé peu avant la parution, donc quand il est mort, il savait que le livre allait être publié. Bon, il trouvait que les choses traînaient un peu. Alors, il me disait, oh, mais ton éditeur, écoute, il va se décider ou quoi? Est-ce qu'il t'a raconté des bobards? Je lui dis, non, écoute, papa, rassure-toi, il y a un contrat avec un délai, etc. Et puis, bon, bah, quelques mois après, il est mort et il a juste pas vu le livre publié, quoi. Ouais. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il le voit et puis qu'il voit aussi celui-là, mais voilà, c'est comme ça.
François Hussy, vous vous décrivez comme un rêveur, et par humilité, encore une fois, je le suppose, un rêveur, dites-vous, comme tout le monde, car tout le monde, pensez-vous, rêve. Qu'est-ce qui vous donne cette certitude que tous les gens rêvent, sont des rêveurs?
Ce qui me donne cette certitude, c'est que c'est vrai que tous les gens ont en tout cas des rêves nocturnes, non?
Non, mais je vous écoute.
Oui, moi je pense que...
Alors ils en ont tous, oui, après l'histoire étant de s'en souvenir ou d'en faire quelque chose.
Voilà, mais... moi je pense que tout le monde rêve la nuit,